Amis auditeurs de Radio Courtoisie, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Libre Journal des Débats. Elle est préenregistrée ce soir et je remercie la technique qui nous permet de faire ces enregistrements, notre magnifique Studio 2 qui nous permet d'avoir davantage d'émissions produites de manière originale sur Radio Courtoisie. Et félicitations à toute l'équipe qui rend cela possible. Ce soir, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Monsieur Rémi Quenet. Rémi Quenet, bonsoir.
Bonsoir Charles de Meyer.
Vous êtes diplomate, conseiller politique, vous avez passé un peu de temps en Europe centrale et dans les Balkans, et vous nous venez avec une superbe biographie, Alexandre Ier de Yougoslavie, 1888-1934, dans la superbe collection Biographie des éditions Perrin. On va passer ensemble 85 minutes à discuter de la vie d'Alexandre Ier de Yougoslavie. Je vous sais, Rémi Quenet, auditeur de Radio Courtoisie et de ce Libre Journal des Débats, vous ne pourrez donc pas déroger à la coutume des trois questions liminaires. D'abord, est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu la genèse de cet ouvrage? Est-ce que c'est Alexandre Ier vous passionnait? Est-ce qu'au contraire, ça a été une commande finalement? Comment est né ce projet, Rémi Quenet?
Tout d'abord, avant de répondre à votre question, je voudrais vous remercier d'avoir eu la gentillesse de m'inviter à cette émission, dont je suis effectivement un fidèle auditeur. Alors, les éditions Perrin avaient constaté, en fait, ne pas avoir de biographie d'Alexandre Ier de Yougoslavie, non seulement au catalogue des éditions Perrin, mais les éditions Perrin avaient constaté qu'il n'y avait pas eu de biographie en langue française depuis 1936, c'est-à-dire peu après l'assassinat du roi à Marseille. Donc dans un contexte, si vous voulez, qui ne permettait pas d'avoir peut-être suffisamment de recul. En revanche, il y a eu des biographies récentes d'Alexandre Ier de Yougoslavie, notamment une monumentale et universitaire à Belgrade il y a quelques années. Mais il n'y en avait pas pour un public francophone. Et donc, ça n'était pas mon idée au départ, c'était vraiment celle de l'éditeur. Mais il se trouve que j'ai vécu et servi en ancienne Yougoslavie, dans différents pays d'ex-Yougoslavie. Donc le directeur général, M. Hivert, a suggéré à un ami commun, si vous voulez, qui lui-même pensait ne pas suffisamment comprendre la langue serbe pour pouvoir comprendre l'intégralité des archives. Voilà. Voilà.
Mais oui,
Voilà la
l'histoire.
genèse de l'ouvrage. J'espère que ça n'est pas trop, trop.
L'histoire et l'édition française doivent une sacrée chandelle à Benoît Hivert, mais ce n'est pas le sujet
En
principal de
effet.
cet entretien. Rémi Quenet, vous l'avez dit, vous avez vécu, vous avez servi dans cette Europe balkanique. Il est une chose d'y servir, il est une autre de se passionner pour l'histoire. Malheureusement, ça devrait toujours aller de pair, vous me direz, mais
En effet.
ce n'est pas systématique. Comment avez-vous pris le virus de cet intérêt historique pour ces régions? Comment y avez-vous travaillé finalement? Comment êtes-vous passé d'une mission professionnelle à une passion et une étude plus approfondie?
En fait, c'est ce que vous venez d'indiquer, cela va de pair. Vous ne pouvez pas servir dans un pays sans vous passionner par son histoire. Disons que c'est une condition absolument nécessaire à la bonne compréhension d'une culture politique, particulièrement dans les Balkans, mais je pense que c'est le cas dans n'importe quel autre pays. En ce qui concerne Alexandre Ier de Yougoslavie, il a profondément marqué la physionomie de la ville de Belgrade, où j'ai habité. Donc c'est vrai que j'avais aussi la chance d'avoir des amis et des collègues serbes qui m'expliquait un peu l'urbanisme et l'architecture de la ville de Belgrade, et cela nous renvoyait toujours à l'œuvre d'Alexandre Ier de Yougoslavie. Voilà.
Pour travailler à cet ouvrage, Rémi Quenet, donc on vous l'avait dit, il y a eu des biographies au mi-temps des années 30, puis des productions en serbe. Je crois que vous citez régulièrement une historienne américaine ou anglo-saxonne, vous le préciserez. Comment avez-vous travaillé? Est-ce que l'historiographie est complexe? J'imagine que les Balkans sont complexes. La personnalité d'Alexandre Ier, elle est aussi pour différents pays locaux. Comment avez-vous réussi à ramasser tous ces éléments et en faire la synthèse que vous nous proposez?
Alors, il y a deux choses. La première, c'est que ce qui est encore plus complexe en ce qui concerne la Yougoslavie, c'est que la Yougoslavie n'est pas que les Balkans. La Yougoslavie est à la fois les Balkans et l'Europe centrale. Et c'est peut-être d'ailleurs la raison pour laquelle l'émulsion enfin, n'a pas pris. C'est parce que le roi Alexandre Ier n'est pas parvenu à faire cohabiter politiquement des entités d'Europe centrale et des Balkans, aux cultures politiques peu compatibles. Voilà, je vous ai indiqué qu'il y avait deux éléments, et évidemment, en voulant
Le
passer au
premier
second
élément,
élément, j'ai oublié votre question.
c'était l'historiographie, finalement, à partir de quels ouvrages, de quelles archives
Oui,
avez-vous pu travailler?
bien sûr. Alors, ce que j'ai voulu, alors c'est peut-être un peu original, ce que j'ai voulu, c'est la spécificité de cette biographie par rapport à celles qui ont déjà été publiées, c'est que j'ai voulu non pas me limiter, mais j'ai voulu principalement citer les archives, nos archives diplomatiques. Ça veut dire que c'est la biographie d'Alexandre de Yougoslavie vue par le regard des diplomates français d'il y a un siècle. Donc, je me réfère principalement à nos archives diplomatiques qui sont maintenant à la Courneuve, mais évidemment, j'ai complété par de nombreuses lectures, dont plusieurs historiens américains, ou historiennes d'ailleurs plutôt, américaines, par des lectures croates, serbes notamment, mais la trame de ma biographie, c'est vraiment, elle repose, enfin, je me suis vraiment fondé sur nos archives diplomatiques. Même par exemple, en ce qui concerne l'assassinat du roi Alexandre à Marseille, c'est vraiment son assassinat vu par les yeux du ministre de France à Belgrade, puisque à Belgrade, ça n'était pas une ambassade, mais une légation, donc on disait ministre de France et non pas ambassadeur. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, il y avait peu d'ambassades et surtout beaucoup de légations. Enfin, peu importe ça ne change rien. Et le ministre de France a énormément écrit sur l'assassinat puisqu'il était sur place à Marseille. Et donc voilà, c'est aussi un hommage à nos archives diplomatiques et un hommage aux diplomates français d'il y a un siècle.
Et à leurs plumes qui rendent les événements à la fois profonds et vivants. Je rappelle à nos auditeurs que j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir M. Rémy Guenet qui publie Alexandre Ier de Yougoslavie dans la collection Biographie des éditions Perrin. Entrons un petit peu dans notre sujet. Et pour peut-être une des meilleures manières d'y accéder, c'est une de vos réflexions en avant-propos. C'est cette mémoire assez confuse en Europe d'Alexandre Ier de Yougoslavie. Vous écrivez que, au mieux, quelques lycéens français savent qu'il a été assassiné à côté de Louis Berthoud. Quant à sa mobilisation mémorielle, elle diffère beaucoup dans les États issus de l'éclatement de sa couronne. En Croatie, vous expliquez qu'il est soit oublié, soit de triste, de médiocre mémoire. Et en Serbie, au contraire, il fait l'objet d'une remobilisation mémorielle.
Oui, alors c'est ça, c'est très intéressant. Bon, déjà en France, il peut y avoir une certaine gêne à évoquer Alexandre de Yougoslavie, Alexandre Ier de Yougoslavie, parce que pour dire les choses directement, la France n'était pas très fière d'avoir failli en termes de préparation de la visite, puisque la sécurité a été défaillante à Marseille. Donc, les Français étaient peut-être un petit peu gênés également dans cette évocation. C'est aussi peut-être pour cela qu'on n'en parle plus beaucoup en France. Alors après, en ce qui concerne la Serbie et la Croatie et les autres républiques yougoslaves, c'est en fait sous le régime du maréchal Tito qu'on ne parlait plus tellement de la période royale, parce que Parce qu'évidemment, il était préférable de considérer que c'était Tito qui était le fondateur de la Yougoslavie. Et donc, toute la période royale, y compris en Serbie, était taboue. Alors aujourd'hui, depuis le changement de régime, si l'on peut dire, en particulier en Serbie, on parle beaucoup d'Alexandre de Yougoslavie en Serbie, mais de façon très favorable. Il y a notamment une série télévisée sur une chaîne privée serbe qui est très bonne, mais qui présente Alexandre sous un jour fa très favorable. Très favorable, même si les aspects un petit peu, enfin oui, dictatoriaux du régime sont aussi présentés. Alors, en ce qui concerne les Croates, pour vous donner un exemple, j'ai rencontré il y a quelques semaines un universitaire croate qui m'a indiqué qu'il serait très intéressé par la lecture de ma biographie, mais qu'il espérait que je n'avais fait preuve d'aucune indulgence à l'égard de ce triste sire. Et au lieu de parler du roi Alexandre, il dit le tyran Alexandre. Bon, je dois dire que j'ai un certain nombre d'amis croates qui savent que j'ai entrepris cette rédaction et qui au début étaient un peu hostiles, mais qui finalement m'ont quelquefois donné quelques idées aussi. Parce que ce que j'ai voulu faire, j'ai également voulu parler du peuple croate et non pas seulement du peuple serbe, et de la façon dont le peuple croate, dont la nation croate avait vécu le régime du roi Alexandre. Ce qui certainement n'a pas dû être toujours très facile parce qu'il pouvait y avoir, il pouvait y avoir une répression, y compris de, par exemple, de processions religieuses dès lors que l'on utilisait le drapeau croate. Donc la période a été un peu difficile, même très difficile pour la nation croate, jusqu'à ce qu'en 1939, donc 5 ans après la mort d'Alexandre, on trouve un compromis pour l'organisation territoriale, pour une organisation territoriale qui soit acceptable pour la partie croate. Mais ce compromis n'a pas été trouvé du vivant d'Alexandre, mais 5 ans après sa mort.
Nous, dernière question avant d'entrer dans un aspect plus chronologique pour comprendre un petit peu la personnalité de notre personnage. Alexandre Ier, écrivez-vous, sa personnalité est tantôt attachante, tantôt brutale, assez énigmatique et complexe, volontiers secret, ce qui constitue une difficulté, mais aussi l'intérêt d'une telle biographie.
Oui, ça peut être une difficulté parce que il y a un moment où il pouvait m'arriver de me dire, oh, ce personnage est tout de même un peu austère et j'ai l'impression qu'au lieu de rédiger sa biographie, je suis en train de plutôt de rédiger l'histoire du régime. Et puis j'avais peur que même que ce soit un petit peu austère à la lecture. Alors, oui, il était secret, mais je pense que c'est également parce que sa carrière a commencé par par la Première Guerre mondiale et que cela a été très rude. Donc, il était d'abord un soldat. Et un soldat qui a vraiment. Bon, vous savez que le peuple serbe a été contraint, donc à la fois l'armée et le peuple serbe a été contraint de quitter la Serbie et de traverser les montagnes albanaises après l'occupation austro-hongroise de Belgrade. Et ça a été extrêmement difficile. Et je pense que et lui était malade en plus. Donc, c'était en plus la Serbie sous Pierre Ier, donc le père Pierre Ier de Serbie, le père d'Alexandre. C'était une cour qui était dénuée de femmes, puisque Pierre Ier était veuf. Le prince Alexandre n'était pas marié immédiatement, donc ça a renforcé cette austérité. L'austérité de la cour a été atténuée ensuite quand Alexandre s'est marié.
Un mariage dont nous aurons l'occasion de parler au cours de
Oui.
cette émission. Vous l'avez dit, privé de femmes, notamment parce que Pierre Ier est veuf et le jeune Alexandre ne connaît quasiment pas sa mère.
Non.
Où naît-il et dans quelle famille, pour qu'on la décrive un peu, vit-il le jour?
Donc, il est né en 1888 à un moment où la dynastie Karageorgievitch était une dynastie déchue et exilée. En résumé, au 19e siècle, il y a eu deux dynasties rivales qui se sont mutuellement. Alors, je ne peux pas toujours dire entretués, mais il y a eu deux dynasties rivales, les Karageorgievitch et les Obrenovitch. Et au moment où Alexandre est né, c'était donc les Obrenovitch qui étaient sur le trône. Et donc, son père, qui n'était pas encore Pierre Ier, était exilé à la cour du prince de Monténégro. Et Pierre Ier avait donc épousé une fille, la fille aînée, Zorka, la fille aînée du prince de Monténégro, Nicolas, qui est devenu ensuite le roi de Monténégro. Et donc, il est né à Cetinje, qui était la capitale de la principauté de Monténégro, dans une toute petite capitale. Cetinje, qui est une sorte de capitale un peu d'opérette, si vous voulez, mais c'est charmant, c'est très beau. Et donc, il est né tout de même, il est né en exil, mais il est né au sein d'une famille royale, hein, princière et puis royale. Simplement, la dynastie, donc par sa mère, il est un Petrovitch Njegoš, par sa mère Zorka. Donc il est autant monténégrin que serbe. Voilà, il est autant monténégrin que serbe, mais son grand-père, Nicolas de Monténégro, n'aimait pas son gendre, Pierre Ier de Serbie, parce que d'abord, Pierre Ier était d'esprit très libéral. Alors que le Monténégro, à ce moment-là, était un régime enfin, qui n'était plus théocratique, hein, ça n'était plus les princes-évêques, mais ça n'était pas du tout un régime libéral. Et puis l'autre raison, c'est qu'il associait Pierre Ier à la mort de sa fille, puisque Zorka est morte en couche, en fait. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle Pierre Ier, qui n'était Alors, Pierre Ier est monté sur le trône de Serbie en 1903, mais avant cela, il a quitté la cour de Monténégro. Il est parti parce que, je pense principalement, ses relations n'étaient pas très bonnes avec son beau-père, et il est parti à Genève, ce qui a permis, qui était une ville d'esprit libéral et démocratique, ce qui a permis à Alexandre d'être scolarisé avec son frère à Genève. C'est aussi pour cela qu'il était parfaitement francophone. Et il a également été éduqué en partie à Saint-Pétersbourg. Alexandre était un grand russophile, un grand francophile, mais aussi un grand russophile.
Et ça l'accompagnera d'ailleurs toute sa vie. Un mot peut-être sur sa famille des Karageorgievitch. C'est une noblesse assez récente en réalité.
C'est la raison pour laquelle Alexandre a eu un peu de difficulté à se marier. Les Karageorges ou les Karageorgievitch sont donc les descendants de Karageorges qui a fomenté la première insurrection contre l'Empire ottoman au tout début du 19e siècle. Il me semble que c'est 1804, si je ne me trompe pas. Et c'est ce qui donne un grand prestige à cette dynastie, qui est une dynastie autochtone. Donc c'est important de dire que c'est une dynastie autochtone parce que dans les Balkans, la plupart des dynasties étaient d'origine germanique. Donc c'est une dynastie prestigieuse de ce point de vue et d'un point de vue militaire. Mais pour les autres familles royales d'Europe, c'est une dynastie récente, voire une dynastie de parvenus, enfin, pour dire les choses de façon un peu dépréciative. C'est intéressant parce qu'à Saint-Pétersbourg, Alexandre est très bien accueilli, mais ensuite, quand il s'agit du mariage, aussi bien la famille d'Orléans en France que les Romanov hésitent un peu à favoriser le mariage d'Alexandre avec une princesse française ou une princesse russe.
Autre élément important dans sa jeunesse, c'est que vous notez, et cela aura un rôle dans son règne, qu'il n'a jamais connu d'éducation catholique. C'est-à-dire qu'à Genève, il est dans une institution laïque, je crois, d'inspiration calviniste, mais laïque. Évidemment, à Saint-Pétersbourg, il est au cœur de l'orthodoxie. Et finalement, il n'a jamais été dans une école, une pension, un collège lui aurait permis de toucher de plus près la culture, l'éthos catholique.
Oui, alors c'est l'une des hypothèses que j'évoque pour aussi pour expliquer l'échec de la constitution d'un royaume mi-catholique, mi-orthodoxe. La spécificité de ce royaume, c'était du point de vue de Rome, du point de vue du Saint-Siège, c'était d'être un royaume mi-catholique, mi-orthodoxe. Ça peut sembler secondaire, parce que par exemple, vous avez l'Allemagne qui est mi-luthérienne, mi-catholique, d'une certaine façon, donc ça pourrait sembler possible. Mais en l'occurrence, ce qui est un peu compliqué, c'est que lui-même était orthodoxe jusqu'au bout des ongles, parce que né au Monténégro, élevé en partie en Russie. Mais d'un autre côté, il a voulu aussi jouer le jeu, notamment il voulait qu'il y ait un concordat avec le Saint-Siège, et il jouait le jeu, c'est-à-dire que quand il allait à Zagreb, il assistait aux offices à la cathédrale catholique. Néanmoins, on peut constater, quand on observe son action politique, enfin sa politique religieuse, on peut observer que lui-même et son entourage comprenaient fort mal l'Église catholique. Et le fait qu'il a été, comme vous le dites, scolarisé d'abord dans une école publique, ensuite dans une pension privée, mais laïque, d'inspiration calviniste, renforce effectivement sa méconnaissance du monde catholique. Cela étant dit, c'est symétrique, hein, quand on observe l'affaire du Concordat, on s'aperçoit que le Saint-Siège ne comprenait pas, et le clergé catholique croate ne comprenait pas toujours très bien non plus le monde byzantin et le monde orthodoxe. Donc les responsabilités sont assez partagées.
Il va découvrir la Serbie en 1903 à la faveur du retour de son père dans le pays et sur le trône. Et très rapidement, ce qu'on peut constater, c'est qu'il va réussir à devenir, enfin réussir, il va devenir l'héritier de la couronne alors qu'il n'était pas le fils aîné de son père. Son frère aîné Georges, dû accepter de ne pas être l'héritier naturel, enfin l'héritier de la couronne. Comment l'expliquer?
Alors, il y a trois évictions en fait, hein, puisque il n'a pas évincé son père en 14, son père était trop vieux, mais c'est vrai que il a exercé le pouvoir à la place de son père à partir de 1914, et ensuite, après la Première Guerre mondiale, il a tout de même contribué à chasser son grand-père, son propre grand-père, de son trône au Monténégro. Mais donc on considère quelquefois les personnes qui aiment critiquer Alexandre de Yougoslavie disent qu'il a évincé son père, son grand-père et également son frère aîné. Et donc vous me posez la question sur Georges. Donc Georges est le frère aîné d'Alexandre. Alors lui, le prince Georges, est un personnage haut en couleur, à tel point que l'un de mes amis m'avait dit au moment où je préparais cette biographie, Rémi, vous auriez mieux fait de rédiger une biographie du prince Georges, ça aurait été beaucoup plus palpitant. Alors, son frère aîné, il a étudié avec lui, bien sûr, à Genève et puis en Russie. Alors, lui aussi, c'est une énigme, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si il a été évincé parce qu'il était fou ou s'il est devenu fou parce qu'il avait été évincé. Ce qui est certain, c'est que le prince Georges, qui a été autorisé à revenir en Yougoslavie sous Tito, une fois qu'il n'y avait plus de royauté en Yougoslavie, il n'était plus fou du tout. Donc c'est un mystère. Le prince Georges était très aimé de son père, de leur père, très aimé de leur père, était un personnage très attachant. était également très doué en mathématiques. Simplement, il était très brutal. Il était très brutal dans ses actes de la vie quotidienne, puisqu'il a notamment tué l'un de ses valets à coups de botte, probablement dans l'estomac. Ou alors, il pouvait s'amuser, par exemple, il demandait à une sentinelle de fumer une cigarette et il se mettait assez loin et il tirait sur la cigarette avec son revolver pour vérifier qu'il visait bien, par exemple. Donc, il était considéré comme très brutal dans sa vie quotidienne, mais il l'était également dans sa conception politique. Ça signifie que sur la question de la Bosnie-Herzégovine, par exemple, il en voulait beaucoup aux Russes de ne pas, au Tsar, de ne pas avoir suffisamment soutenu la Serbie contre l'Autriche-Hongrie. Et je crois qu'il a, si mes souvenirs sont bons, je crois qu'il avait même écrit à Nicolas II pour s'en plaindre. Donc en fait, il avait un caractère très entier, il n'était pas du tout diplomate de caractère, contrairement à Alexandre qui était à la fois un soldat et un diplomate. Et on a considéré, je pense également, le président du Conseil Pašić, et puis les différentes sociétés secrètes qui contrôlent l'armée, enfin bon. Que d'un point de vue rationnel, il ne serait pas apte à succéder à Pierre Ier. Mais en fait, il a perdu son il a perdu son titre de prince héritier au profit d'Alexandre bien avant la mort de Pierre Ier de Serbie. Et il l'a très mal vécu. Il l'a très mal vécu. En particulier parce Georges a toujours pensé que, notamment, il avait dû renoncer au trône de Serbie. Et comme le nouveau royaume n'était pas le royaume de Serbie, mais le royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes, il a considéré qu'il n'avait pas renoncé pour ce nouveau royaume élargi. Voilà. Puis ensuite, il espérait être l'héritier présomptif d'Alexandre. Et les choses se sont gâtées quand Alexandre s'est marié, parce que là, il a compris qu'Alexandre aurait des enfants et que donc, il ne serait
Schéma,
plus le...
un schéma assez classique. Nous
Oui,
allons
ça c'est très classique, oui.
retrouver Rémy Guenet, auteur de Alexandre Ier de Yougoslavie 1888-1934 aux éditions Perrin. Mais il nous a fait la surprise de nous proposer une sélection de musiques qui peuvent identifier notre émission. C'est la première que nous écoutons maintenant.
Ma što da želim, sve je tako daleko i sad mi žao, sve bi opet ponovo. Najljepšu pjesmu tebi bi pjevao. Da sam pjevat mogao. Ptice u bijegu, tišina gradi zidove. Zvoni s Bogom, riječi kazne Božije. Te tvoje usne
što sanjam, čem pre se Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Et vous êtes de retour dans le Libre Journal des débats de Radio Courtoisie. Charles Demeyer a le plaisir et l'honneur de recevoir M. Rémy Quenet qui publie Alexandre Ier de Yougoslavie aux éditions Perrin. Nous continuons notre traversée dans la vie d'Alexandre Ier et des Balkans, puisqu'il y a un élément particulièrement important à noter, c'est les guerres balkaniques entre 1912 et 1920. Enfin, les deux premières guerres balkaniques, puis le premier conflit mondial.
Vous avez eu raison de fusionner les trois, parce que c'est une chose que l'on ne voit pas de France, que l'on perçoit mal de France, mais lorsque l'on est en particulier en Serbie et dans les Balkans, les deux guerres balkaniques et la Première Guerre mondiale forment un tout. Donc soit on peut même parler de trois guerres balkaniques, ou alors on peut considérer que c'est un bloc, que c'est une guerre qui commence, comme vous venez de l'indiquer, Charles Demeyer, qui va de 1912 à 1920, puisqu'en plus la mobilisation a été tardive. Alors, c'est très important parce que ces guerres balkaniques, ce sont ces guerres balkaniques qui ont permis à la Serbie, qui venait en fait de recouvrir sa liberté au XIXe siècle, a permis à la Serbie de s'étendre de façon considérable sur le plan territorial. Et puisque la Serbie a été systématiquement dans le camp des vainqueurs. En revanche, la Bulgarie a beaucoup perdu. Donc la première guerre balkanique, c'était plusieurs de ces États balkaniques contre l'Empire ottoman. La deuxième guerre balkanique, c'était les États balkaniques contre la Bulgarie. Et la Bulgarie a été défaite. Et puis ensuite, il y a eu la Première Guerre mondiale et la Serbie a effectivement été aussi dans le camp des vainqueurs. Donc elle a été trois fois dans le camp des vainqueurs, mais ça a été des combats qui étaient extrêmement meurtriers, extrêmement difficiles. Donc la Serbie a voulu, si vous voulez, retrouver l'intégralité du territoire perdu. Après, je pense que tous nos éditeurs connaissent la date 1389 de Kosovo-Polje. Donc, l'objectif des Serbes, c'était de retrouver tout ce qui avait été perdu sur l'Empire ottoman, en fait. Donc ça a été le cas grâce aux guerres balkaniques, puisque la Macédoine... À l'issue de la Deuxième Guerre balkanique, la Macédoine a été en fait partagée entre la Grèce et la Serbie. Et la Bulgarie en a eu une toute petite partie. Ce qui fait que beaucoup de Bulgares, aujourd'hui encore, c'est un peu comme leur Alsace-Lorraine, beaucoup de Bulgares aujourd'hui encore ont du mal à admettre que cet État qui s'appelle aujourd'hui la Macédoine du Nord... un peu de mal à considérer que ça n'est pas la Bulgarie, si vous voulez. Mais c'était la même chose il y a un siècle. C'est aussi la raison pour laquelle il y a le meurtrier d'Alexandre à Marseille est d'ailleurs un Macédonien. Macédonien ou Bulgare, on ne fait pas tellement la différence. Et c'est la défaite bulgare à l'issue de la Seconde Guerre balkanique qui permet à la Serbie de considérer que la Macédoine, qui donc aujourd'hui est la Macédoine du Nord, à l'époque, on considérait que c'était la Serbie du Sud. Voilà. Ce qui est aujourd'hui la Macédoine du Nord était considéré à l'époque comme la Serbie du Sud. Et donc,
d'ailleurs, ça continue à avoir des oui. conséquences européennes.
Oui, alors c'est très important. Ce dont je ne vous ai pas parlé au tout début de l'émission, quand vous m'avez interrogé sur les raisons de cette biographie, c'est qu'en fait, tout cela explique énormément d'éléments politiques qui sont fondamentaux aujourd'hui pour comprendre la situation politique des Balkans. C'est le cas de la Macédoine, c'est le cas du Kosovo, c'est le cas de la Bosnie-Herzégovine, enfin.
En réalité, il gouverne à ce moment-là. Est-ce qu'on peut dire les choses comme ça, Rémi Quenet?
Oui, son règne commence officiellement en 1921 à la mort de Pierre Ier, mais en réalité en 1914, et ce qui est important avant la déclaration, avant le déclenchement, dès avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale, c'est lui qui gouverne. C'est Alexandre qui gouverne. Et au moment du fameux attentat de Sarajevo, c'est Alexandre qui gouverne. Simplement, son père, Pierre Ier de Serbie, faisait partie de ces souverains qui acceptaient finalement de régner sans véritablement gouverner. Alors qu'Alexandre est un prince qui veut et régner et gouverner. Avant même d'être lui-même le roi en 21, il gouverne. Et la classe politique serbe, en particulier Pašić, était habituée à ce que le roi Pierre Ier laisse le gouvernement gouverner, si vous voulez, alors qu'Alexandre, ça n'est pas du tout son tempérament. Et il va surtout être un chef d'abord, il va surtout être un chef militaire, et un chef militaire héroïque. Sachant que son frère Georges, dont vous parliez tout à l'heure, à juste titre, son frère Georges a également été un héros sur le plan militaire.
Héros militaires, héros qui ont des liens avec une armée dont on ne connaît pas tous le soutien qu'elle a eu pour cette famille, c'est la France, et notamment Franchet d'Espéré, qui est abondamment cité dans cette partie de l'ouvrage. C'est la Grande Armée d'Orient. Est-ce que vous pouvez nous faire rapidement, pour combler l'inculture de ceux qui nous écoutent, un petit récit de cette alliance entre la France et Alexandre à ce moment-là?
Bon, alors je n'ai pas voulu dans mon ouvrage, je n'ai pas voulu, j'ai voulu que ce soit d'abord un ouvrage, disons, un ouvrage de diplomate, si l'on veut. Enfin, je n'ai pas voulu en faire un ouvrage d'histoire militaire. D'abord parce que je n'ai pas probablement les compétences nécessaires pour cela, et ensuite parce que les deux guerres balkaniques dont vous avez parlé et la Première Guerre mondiale sont quand même d'une grande complexité. Donc je suis peut-être passé assez rapidement sur le sujet. Néanmoins, ce qui est très important, c'est que évidemment la Serbie s'est trouvée comme prise en étau entre la Bulgarie et l'armée austro-hongroise. Et c'est la raison pour laquelle, dès le début de la Première Guerre mondiale, toute la Serbie, c'est-à-dire le peuple et son armée, ont dû fuir, comme je l'indiquais il y a quelques minutes, à travers les montagnes albanaises. Et c'est à ce moment-là que l'armée française a secouru l'armée serbe, mais aussi la population serbe, sur l'île de Corfou. Et là, les soldats serbes ont été soignés. Souvent, ils sont morts d'épuisement, ils sont morts du typhus aussi. Ceux qui ont pu, notamment les enfants, ont été scolarisés en Afrique du Nord. Ça n'est pas donc que l'armée française, c'est toute la France qui a secouru la Serbie à ce moment-là. Et les Serbes s'en souviennent. Et en fait, il y a eu, sous le maréchal Franché Desprez, il y avait à la fois des Serbes, des soldats serbes et des soldats français. Donc nous avons combattu côte à côte. Il est évident que sans le soutien des Alliés, et particulièrement sans le soutien français, la Serbie n'aurait pas pu être dans le camp des vainqueurs, mais les militaires français étaient très impressionnés par le caractère valeureux des soldats serbes. Je pense qu'ils étaient très impressionnés par le courage, par l'héroïsme des soldats serbes. On peut considérer que la Serbie est un peuple de soldats, oui, mais je pense qu'il y avait aussi une sympathie mutuelle entre les deux peuples. Voilà.
Sympathie,
Pardon.
Allez-y, Rémi Canet, allez-y, allez-y. Allez.
Non, ce que je voulais simplement dire, c'est qu'un grand nombre des soldats français de l'armée d'Orient venaient d'Algérie. C'était souvent des... Alors, venaient d'Algérie, ça veut dire qu'il y avait également beaucoup de Français d'Algérie qui étaient dans cette armée. D'ailleurs, quand vous allez visiter les cimetières militaires de l'armée d'Orient, dans les Balkans, ils sont très nombreux. Il y en a beaucoup. Il y en a en Macédoine, en Serbie, en Roumanie, en Croatie. Ils sont splendides et ils sont immenses. Et la majorité des tombes sont chrétiennes, mais il y a aussi des tombes musulmanes et aussi des tombes indochinoises, c'est-à-dire de soldats qui étaient bouddhistes. Donc c'était une armée. C'est une armée qui était assez hétérogène, si l'on veut, en termes d'origine géographique des soldats. Mais c'est une armée, donc, on parle du front de Salonique, c'est une armée glorieuse et dont on en parle souvent moins en France, disons, on en parlait un peu moins en France métropolitaine parce que les soldats français métropolitains n'étaient pas tellement dans l'armée d'Orient. Ils étaient plus dans les tranchées sur le sol métropolitain. Mais c'est une armée qu'on a trop tendance, effectivement, dont on ne parle pas suffisamment.
Il y a un tournant politique à ce moment-là qui est essentiel pour comprendre après les imbrications et les implications politiques pour le règne d'Alexandre. C'est ce qu'on appelle le procès de Salonique en 1917. Vous expliquez que ce procès, on ne peut pas le comprendre sans comprendre l'émergence des sociétés secrètes à partir de 1908 dans le pays. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots de ces procès et en quoi, surtout, ils vont finir par lier Alexandre à certains des protagonistes qui vont l'accompagner dans ce moment politico-judiciaro-militaire, finalement?
Oui, alors le procès de Salonique de 1917, bon, naturellement... Je suis obligé de simplifier un peu les choses parce que c'est relativement complexe. Il a eu lieu en 17 parce qu'on sentait la fin de la guerre approcher, probablement, et donc il s'agissait de régler les choses avant le retour d'un pouvoir civil, peut-être. Et pourquoi Salonique? Parce que le gouvernement serbe était à Corfou et à Salonique, ça dépendait des moments. Puisque Belgrade n'avait pas encore été reconquis. La société secrète, qu'on pourrait aussi appeler une hétérie, enfin, qui, si vous voulez, noyautée, qui est une sorte d'État dans l'État, c'était la fameuse main noire. Donc, la main noire, qui est souvent évoquée, y compris dans les lycées français, enfin, tout au moins lorsque j'étais lycéen. Je ne sais pas si l'on apprend encore cela aujourd'hui, mais on parle de la main noire quand on évoque l'attentat de Sarajevo. Et en fait, le procès de Salonique, c'est une liquidation de la main noire au profit d'une autre société secrète qui s'appelle la main blanche. Voilà. Et la main noire était en fait tenue comme responsable du déclenchement de la Première Guerre mondiale, puisque en raison de l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo. Et 1917, c'est également le moment où l'on parle de possibles paix séparées et où diplomatiquement, on peut imaginer que les Serbes, que le gouvernement serbe veut ménager l'adversaire, enfin, ou l'ennemi même, austro-hongrois. Et donc, comme la main noire était considérée comme responsable de l'assassinat de l'archiduc en 14, liquider la main noire permettait d'amadouer la partie austro-hongroise, mais également... d'un point de vue strictement serbe, de se débarrasser de la main noire en préparant le retour d'un pouvoir civil pour en finir une fois pour toutes. Alors, c'est à la fois un règlement de compte entre main noire et main blanche, mais c'est également un règlement de compte entre ceux qui sont pour un pouvoir civil et ceux qui sont pour un pouvoir militaire. C'est un peu compliqué parce qu'il y a également la question du parti radical du président du Conseil, Pachitch. Donc, il peut aussi y avoir une concurrence, si vous voulez, y compris dans l'administration de la Macédoine. Est-ce qu'il vaut mieux que la Macédoine soit sous administration militaire ou sous administration civile, sachant qu'il y a des accusations réciproques de le pouvoir civil était considéré comme
De prérogatives
corrompu, comme moins efficace,
mmh.
voilà. C'est
En
un
tout
peu
cas,
difficile de résumer brièvement le procès de Salonique, mais c'est un procès qui est... pardon, je vous empêche de parler.
Non, c'est moi qui vous interromps pour avancer. C'est un procès qui est fondamental parce que, évidemment, la main blanche, l'autre, c'est l'organisation qui supplante la main noire, aura dès lors partie liée avec Alexandre, et on le verra plus tard dans l'émission, cela le contraindra politiquement dans certaines affaires.
Et c'est ça. C'est-à-dire que la personne, je n'ai pas donné son nom, pardonnez-moi, le militaire qui est exécuté à l'issue de ce procès, bon, un peu douteux de Salonique, s'appelle Dimitrievitch. Alors on considère que c'est également lui qui a organisé, bon, c'est probablement un peu plus compliqué que cela, mais c'est lui qui avait également organisé l'assassinat de l'archiduc. Mais Dimitrievitch est donc liquidé en 17. Et le chef de la main blanche, c'est Jivković. Jivković a une importance considérable puisque c'est lui qui sera le président du Conseil à partir du coup d'État d'Alexandre en 1929. Voilà.
Au même moment, la Serbie et Alexandre vont sortir vainqueurs, enfin, en tout cas avec des gains territoriaux de cette période. Il est un autre élément important à concevoir, c'est ce qu'on appelle la déclaration de Corfou en juillet 1917 du gouvernement royal et du comité yougoslave, qui est, écrivez-vous, une étape fondamentale dans l'unification de la Yougoslavie.
Oui, c'est une étape fondamentale, mais simplement, elle ne constitue pas un plébiscite. Ça veut dire que les populations à ce moment-là, enfin la population croate n'est pas consultée par la voie d'un plébiscite. Donc en fait, c'est une déclaration. C'est une simple déclaration qui en fait permet d'unir l'État des Serbes, Croates et Slovènes au royaume de Serbie. Parce que quand on parlait à ce moment-là de l'État des Serbes, des Croates et des Slovènes, ça n'était pas le c'était les Serbes de C'était les Serbes d'Autriche-Hongrie, en fait. C'est-à-dire, c'est une union entre des terres qui se sont libérées, des terres slaves du Sud qui se sont libérées de l'Autriche-Hongrie et le royaume de Serbie, en résumé. Mais c'est d'une grande importance parce que l'instigateur dalmate, qui s'appelle Trumbic, l'inspirateur dalmate qui a également été le négociateur, l'un des principaux négociateurs à Paris, pardonnez-moi, je cherche
Oui,
le mot.
la conférence de Paris, qui
Oui,
est vraiment
la
essentielle pour
conférence
les.
sur la paix, oui, c'est ça. Il y a eu deux négociateurs principaux pour la future Yougoslavie. Qui était donc Pašić, qui était président du Conseil historique de la Serbie, et ce Trumbic, qui était l'instigateur de la déclaration de Corfou. Et en fait, ils ne se sont pas entendus, parce que, évidemment, Trumbic voulait un royaume élargi qui soit, disons, un fédéral, même s'il n'employait pas le terme. Alors que Pašić était un pur centralisateur.
Il faut noter qu'à ce moment-là, et vous le décrivez très bien, Rémy Quenet, le principal défi pour Alexandre, je vous cite, en 1918, est de facto faire exister des traditions politiques totalement opposées entre les peuples balkaniques, byzantins au sud, fédérales et habsbourgeois au nord.
Oui, c'est cela. Il y avait aussi une sorte de mésestime réciproque entre, si vous voulez, entre. Pour Alexandre, il n'y a rien de plus beau que la culture byzantine. Bon. Et souvent, les Croates étaient un peu condescendants à l'égard de cette culture byzantine. Mais là, nous parlons de culture, mais cela vaut également pour la culture politique. C'est-à-dire que. Pour Alexandre, tout ce qui était habsbourgeois sur le plan politique était quelque chose d'un peu mesquin, alors que, en particulier pour les Croates avaient l'impression d'avoir un système, d'être héritiers d'un système politique, disons, plus évolué, plus occidental, plus européen, et considéraient tout ce qui était de culture balkanique sur le plan politique comme étant plus brutal, plus corrompu. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle ces deux mondes ont eu du mal à cohabiter. Mais les traditions juridiques étaient distinctes également, les traditions militaires, enfin. Oui. Donc le défi d'Alexandre, ça a été de réussir à faire cohabiter ces deux traditions. Et en fait, il n'a pas réussi. C'est pour cela que le sous-titre de mon ouvrage est l'unification inachevée, alors même que le surnom d'Alexandre était l'unificateur.
Nous allons étudier ces inachèvements, si je puis dire, avec Rémi Quenet dans la suite de cette émission. Je rappelle qu'il est le biographe d'Alexandre Ier de Yougoslavie aux éditions Perrin. Nous lançons notre deuxième pause musicale.
A mene isti stari nemir pokreće, da se šunjam noću kradom tvojom ulicom i da tu čekam ja pod tvojim prozorom u sjeni bagrema, da te gledam kako žuriš kad mi dolazi. Sve isto je ko nekada, sve isto je, ali ništa isto nije. I ptice s juga već nam nazad dolaze, samo ti, ti ne dolaziš. Koli sen iskrada, iz tvoje postelje ka slavu i zapjeva, da li se tad sjetiš nas, barem i za čas.
Et vous êtes de retour dans le Libre Journal des débats de Radio Courtoisie. Charles de Meyer a le plaisir et l'honneur de recevoir Rémi Quenet qui publie Alexandre Ier de Yougoslavie 1888-1934 aux éditions Perrin. La formation de ce nouveau royaume va faire évidemment un malheureux, c'est Orlando et l'Italie. Orlando et l'Italie qui vont considéré que c'est la victoire mutilée italienne, un thème bien connu. L'émergence du fascisme en Italie créera une archi-rivalité, écrivez-vous, entre Mussolini et Alexandre. Un des traits constants de cette période, hein, qui va nous amener jusqu'à 1934, c'est l'incapacité italo-yougoslave à trouver un terrain d'entente et un modus vivendi diplomatique et politique.
Oui, c'est d'une importance fondamentale. C'est la principale cause d'instabilité du futur royaume yougoslave. C'est également la raison pour laquelle l'Italie soutiendra le mouvement Ustasha, le mouvement croate Ustasha, le mouvement donc qui a préparé l'assassinat d'Alexandre à Marseille. On parle d'archirivalité entre Mussolini et Alexandre. Alors le terme archirival est un terme que j'ai emprunté à une historienne américaine que je cite, dont je donne le nom dans mon ouvrage. C'est exactement cela. Il y a une archirivalité entre eux parce qu'ils ont peut-être une conception du pouvoir un peu analogue, mais également parce que, si vous voulez, à Londres, on s'est engagé à ce que l'Italie reçoive une grande partie des terres irrédentes, ce que les Italiens appellent les terres irrédentes, c'est-à-dire une grande partie de la Dalmatie. Et ça n'est pas, ça ne sera pas respecté. Et Orlando est humilié, en fait, à Paris. Clémenceau parle de lui assez méchamment en disant qu'il est italianissime. Et c'est vrai qu'il claque la porte. Et Wilson, en particulier Wilson, a clairement une préférence pour, disons, pour la Serbie élargie. Voilà. Et tout de même, l'Italie aura l'Istrie, et puis en particulier la ville de Zadar, donc on appelle Zadar en croate et Zara en italien, est italienne, et Fiume, la ville de Fiume, qu'on appelle Rijeka en croate, la ville de Fiume sera d'abord un État libre avant d'être annexée par l'Italie. Mais clairement, l'Italie est insatisfaite, et c'est la raison pour laquelle Mussolini soutiendra le mouvement Ustasha, qui paradoxalement est un mouvement nationaliste croate, mais l'Ustasha est soutenu par un État, l'Italie, dont l'objectif est de mutiler le futur État libre, le futur État indépendant de Croatie. C'est-à-dire que en 1941, il y a le fameux État indépendant de Croatie qui est sous une sorte de co-tutelle italienne et allemande. Mais cet État est mutilé d'une grande partie de son littoral au profit de l'Italie.
Autre grande difficulté, c'est la question constitutionnelle qui sera à peu près constante dans le règne d'Alexandre Ier, notamment la constitution dite de la Saint-Guy. Est-ce que vous pouvez rapidement pour nos auditeurs expliquer l'inspiration de cette constitution et ses lacunes ou ses déficiences qui feront que, en réalité, elle aboutira à des crises parlementaires presque permanentes, si je grossis un peu le trait.
Bon, déjà, en ce qui concerne une constitution, bon, il y a toujours le texte de la constitution et puis la façon dont elle est appliquée. La Serbie, sous Pierre Ier, donc avant l'élargissement consécutif à la fin de la Première Guerre mondiale, la Serbie avait été dotée d'une constitution libérale sous Pierre Ier. Voilà. Et là, ça n'est plus le cas. Disons que la constitution de la Saint-Guy donne surtout le pouvoir au roi, finalement. même si c'est une monarchie constitutionnelle. Et cela correspond à la culture politique serbe, mais cette constitution n'est jamais admise par la partie croate, en fait, pour résumer les choses. Il y a la constitution et puis il y a la répartition, comment dire, l'organisation territoriale. C'est-à-dire on peut dire qu'elle est d'inspiration jacobine, même si on n'employait pas forcément le terme à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y a des départements, que le pays est centralisé, et donc il y a également le fait que pour avoir une. Alors, elle est également, pardon, monocamérale. C'est-à-dire il y a la nécessité de constituer une majorité au Parlement, qui est donc monocamérale. Et comme les Croates vont boycotter ne vont pas vouloir siéger au gouvernement, Pašić, qui est un maître dans l'art de ce qu'on appelle la combinazione, s'appuie sur un parti bosniaque et un parti slovène pour remplacer les Croates, ce qui fait que au gouvernement, au lieu d'avoir le parti paysan croate qui est le principal parti croate, vous aurez en plus du parti radical serbe, qui est le parti historique serbe, vous aurez des Bosniaques et les cléricaux slovènes. Mais pour les Croates, évidemment, ça n'est pas légitime.
Légitime, Pašić va finir par disparaître. Ce sera un peu comme une libération pour le jeune, pour le, enfin le jeune, pour Alexandre Ier. Vous comparez ça presque à la mort de Mazarin.
Oui, parce que Alexandre voulait gouverner et Pašić était encombrant pour lui, parce que Pašić avait été président du Conseil, y compris d'ailleurs sous la dynastie précédente. Et Pašić avait l'habitude, lui, que Pierre Ier le laisse gouverner. Donc Pašić était encombrant pour Alexandre, évidemment, mais faisait figure de patriarche, il était très respecté, donc on peut considérer que c'est une forme de libération. Bon, quand Pašić est mort, peu de temps après une altercation avec Alexandre, en fait, et ça, ça a aussi été reproché au roi. Et ensuite, il va prendre soin de s'entourer d'hommes politiques qui ne lui fassent pas d'ombre et qui sont considérés comme parfois même un peu médiocres. Voilà. C'est-à-dire que le parti radical de Pašić n'a jamais vraiment brillé après la mort de Pašić.
Il a fait face par ailleurs à un homme politique brillant, si on peut dire, enfin en tout cas bon bretteur et qui incarnait l'esprit croate à ce moment-là. C'est celui d'Étienne Radić, qui sera connu à la fois pour son verbe, parfois vous le notez un peu démagogique, on peut le dire comme ça, enfin en tout cas changeant dans ses références, et qui culminera avec son assassinat en pleine session du Parlement. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur cette trajectoire assez originale qui va marquer les difficultés politiques intérieures du règne d'Alexandre Ier?
Bon, la personnalité de Stjepan Radić, donc Stjepan qu'on traduit en français par Étienne, est l'une des personnalités croates les plus vénérées en Croatie, aujourd'hui encore. Cela signifie qu'aujourd'hui encore, quand vous parlez de Radić aux Croates, bon, ils n'apprécient pas forcément, je pense qu'ils n'apprécieront pas forcément certains des éléments qui sont dans ce livre, mais qui ne correspondent pas à ma propre appréciation, mais à l'appréciation des diplomates français de l'époque. Effectivement, ce qui est très surprenant chez Stjepan Radić, chez Étienne Radić, c'est que donc il est à la tête du Parti paysan. Ce qui est surprenant, c'est qu'on a l'impression qu'il n'a pas de ligne directrice. Cela signifie qu'au départ, il était républicain, puis ensuite, il se rallie au roi. On n'arrive pas à savoir s'il est républicain ou non. Ce qui est certain, c'est qu'il est fédéraliste. Ça, il l'est. Alors, démagogue, il l'est parce qu'il est très bon orateur. Il est assassiné. Il est assassiné en plein Parlement. Bon, il ne meurt pas tout de suite, hein, mais plusieurs parlementaires croates sont assassinés. Et à ce moment-là, effectivement, il devient un héros avant même de mourir. Alors, je pense, si mes souvenirs sont bons, que l'assassinat a lieu en 1924. Hein.
Il me semble que c'est en 28,
Oui, effectivement, pardonnez-moi. Non, c'est plutôt bien entendu, c'est 28, puisque c'est la raison pour laquelle il y a le coup d'État royal d'Alexandre en 29.
Vous avez une insigne dignité par rapport à moi, c'est que moi j'ai mes notes sous les yeux, donc c'est plus facile de retrouver tout
ça. Moi, j'ai le livre, Je l'ai écrit il y a déjà quelques mois et parfois j'oublie les dates et les noms de famille.
Il est assassiné et là il y a évidemment une relation trouble puisque en fait une partie de l'entourage politique, si ce n'est d'Alexandre du moins du gouvernement, refuse d'aller comme il devrait y aller contre les assassins.
Oui, en fait déjà au moment où Radić est assassiné en 28 donc par un député monténégrin. En fait, on peut considérer que le régime est condamné et que le royaume est condamné. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a le coup d'État royal en 29. C'est parce que les Croates refusent de siéger au Parlement à Belgrade parce qu'ils considèrent qu'ils ne sont plus en sécurité. Eux-mêmes réclament la restauration de leur propre Parlement à Zagreb, qu'on appelle le Sabor. Donc, en fait, les Croates boycottent le régime. Ce qui se produit également, c'est que quand Radić revient à Zagreb, grièvement blessé à Belgrade, il revient à Zagreb, puisqu'il n'est pas mort tout de suite, et là, il est de la gare à son domicile, les Croates forment une sorte de vœu d'honneur, donc il est devenu comme une sorte de roi de Croatie, si vous voulez. Donc le roi est obligé de suspendre les institutions en 29 pour chercher à élaborer une nouvelle constitution.
Et cette nouvelle constitution, elle met du temps à arriver, je crois quasiment 2 ans. Et elle va être, je crois, décrite comme une démocratie libérale de façade ou un parlementarisme de façade, je ne me souviens plus exactement de l'expression. Oui. En tout cas, entre une période de règne personnel décrit comme autoritaire et qui suspendait les droits liés à la précédente constitution, par exemple les droits sur la presse, on peut pas revenir dessus, mais vous l'analysez assez finement en montrant que c'est mal vécu en Croatie, mais aussi dans la partie intellectuelle de Belgrade. Cette nouvelle constitution, elle est assez mal jugée par les Croates, par une partie des élites intellectuelles serbes elles-mêmes, et regardée comme une forme de césarisme, pour le dire comme ça, par le reste de l'Europe.
Oui, par le reste de l'Europe, y compris par Paris et par Prague, parce que nous n'en avons pas encore parlé, mais il y a la petite entente qui est soutenue par la France, donc qui est une entente entre la Roumanie, une entente anti-hongroise ou anti-révisionniste pour les traités, entre la Roumanie, la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie, mais qui ne s'appelle pas encore la Yougoslavie, qui s'appellera officiellement Yougoslavie en 31, mais les Tchèques, en particulier les Tchèques, trouvent que le régime est trop autoritaire, et y compris la nouvelle constitution octroyée, qui est donc en 31. Mais entre 29 et 31, le roi s'interroge sur ce que seront les prochaines institutions. Donc, on appelle ça, souvent on appelle ça la dictature royale. Voilà, mais c'est un régime autoritaire, mais qui permet au moins de faire régner l'ordre. Et même quelquefois, certains Croates disent qu'ils préféraient la période de 29 à 31 à la période postérieure à 31.
Il faut dire que la période postérieure à 31, elle connaît une recrudescence d'activités terroristes d'origine croate. Expliquons un peu ce que sont ces activités. Est-ce que on est déjà dans une démarche structurée? Est-ce que, comme on le lit parfois, c'est facilité ou soutenu depuis la Hongrie? Qu'en dire finalement?
Alors déjà, Charles de Meyer, en ce qui concerne le terme terroriste, je tiens à préciser que les Croates, même aujourd'hui, n'aiment pas beaucoup qu'on l'emploie, ce mot.
Précisons, hein, si c'est un abus de langage, ça
Non, ça n'est pas du tout un abus de langage de votre part, mais je fais simplement attention à être respectueux de chacune des
D'accord.
parties. Et c'est vrai que les Croates préfèrent, par exemple, pour l'assassinat à Marseille, du roi, ils emploient le terme en croate attentator, ils ne disent pas terroriste. Mais vous savez, c'est toujours la même question hein, en ce qui concerne l'emploi du mot terroriste. Est-ce qu'on est terroriste ou résistant? Enfin bon, disons qu'ils considèrent plutôt avoir été terrorisés. Donc, ils posent des bombes, ils posent des bombes, mais ce mouvement qui s'appelle Oustacha, qui veut dire insurgé, est né en fait de l'assassinat à la Skupština de 1928. C'est l'assassinat des parlementaires croates.
Nouveau petit incident technique, on se retrouve après cette pause musicale, le temps de rétablir tout ça, et on se retrouve à l'antenne de Radio Courtoisie pour parler avec Rémi Quenet d'Alexandre Ier de Yougoslavie, la biographie qu'il vient de réaliser aux éditions Perrin.
Stojte galije carske, sputajte krme moćne, gazite tihim hodom. Opelo držim sada kako ne vide nebo nad ovom svetom vodom. Sinje je more duboko, duboko plavo široko. Sinje je more duboko, duboko plavo široko. Kraj mu se ne da videti, ne može duša podneti. Kraj mu se ne da videti, ne može duša podneti. Kreće se lađa francuska sa pristaništa Solunska. Kreće se lađa francuska sa pristaništa Solunska. Transport se kreće Srbadi, ratnici braća bolesni. Transport se kreće Srbadi, ratnici braća bolesni. Polazim tužan bolestan, al mislim Bože nisam sam. Polazim tužan bolestan, al mislim Bože nisam sam. I moja braća tuguju, što sada sa mnom putuju. I moja braća tuguju, što sada sa
Retour dans le libre journal des débats de Radio Courtoisie. Il nous reste une dizaine de minutes avec Rémi Quenet pour parler d'Alexandre Ier de Yougoslavie. On l'a vu donc, une somme de difficultés. Si on fait un peu de politique bilan, je sais que c'est toujours détesté par les historiens et les biographes, Rémi Quenet, mais bon, j'ose la question tout de même. Qu'est-ce qui finalement n'a pas été dans la politique d'Alexandre Ier de Yougoslavie vis-à-vis des Croates? Pour que son règne fût un succès et l'unification qu'il souhaitait se déroulât correctement.
Un compromis a été trouvé en 1939, donc 5 ans après sa mort, entre la partie serbe et la partie croate. Donc évidemment, comme vous l'indiquez, on ne peut pas réécrire l'histoire et nous pourrions néanmoins nous demander pourquoi ce compromis n'est pas intervenu plus tôt et n'est pas intervenu au cours du règne d'Alexandre. Alors déjà, ce compromis de 1939, si vous voulez, cela permet à la Croatie de disposer d'une grande région autonome, incluant la plupart des territoires croates en 1939. Et d'ailleurs, la Croatie de 1939 était, je crois, même plus étendue qu'elle ne l'est aujourd'hui. Pourquoi cela n'a-t-il pas été possible? Alors, je pense qu'Alexandre lui-même était d'un tempérament politique centralisateur, certainement, mais je crois que surtout ce qui a freiné son entreprise politique d'unification, c'est son entourage politique serbe, notamment le président du Conseil Pešić, dont nous parlions tout à l'heure, qui était un pur centralisateur et qui continuait à appliquer les recettes de la vieille Serbie, à appliquer les recettes de la vieille Serbie à une Serbie élargie, en fait. C'est-à-dire qu'il percevait la Yougoslavie ou le royaume des Serbes, Croates et Slovènes comme une Serbie élargie, alors que les Croates voulaient bénéficier de la même autonomie que celle dont ils bénéficiaient au sein de la double monarchie. Et si cela a échoué, c'est parce que même quand Alexandre voulait jouer le jeu et voulait se considérer également comme un roi croate, la haute hiérarchie militaire et la classe politique serbe, elle ne jouait pas le jeu parce qu'elle ne s'intéressait pas au nord du royaume. Par exemple, Alexandre s'était engagé à ce que les officiers supérieurs ou généraux croates conservent leur grade, le grade austro-hongrois, dans la nouvelle armée. Lui, il s'était engagé, mais ça n'a pas été respecté par la hiérarchie militaire du nouveau royaume, ou alors dans le corps diplomatique. Les Croates étaient rarement chefs de mission diplomatique. Et je pense que ça n'est pas le roi lui-même, c'est tout son entourage, toute l'administration serbe qui ne jouait pas forcément le jeu parce que ça n'était pas dans ses habitudes. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Je pense que c'est ça la raison de l'échec, mais d'autres diraient que Alexandre voulait uniquement constituer une grande Serbie et que les Croates ne le supportaient pas, mais en tout cas, ça a été possible en 1939. Simplement, à ce moment-là, le royaume de Yougoslavie n'a vécu que 2 ans après le compromis de l'accord de 1939. C'était satisfaisant d'un point de vue croate, je pense, mais ça n'a duré que 2 ans.
La catastrophe pour Alexandre, c'est le 9 octobre 1934. C'est une catastrophe pour Alexandre Ier, qui est assassiné alors qu'il vient en France, mais c'est aussi une catastrophe pour la France dans son influence en Yougoslavie. Que sait-on de l'attentat qui va lui coûter la vie et que peut-on dire de la responsabilité française qui va être évidemment instrumentalisé partout pour dire que la France n'avait pas mis suffisamment de moyens pour sécuriser l'avenue de son hôte.
Alors, c'est instrumentalisé en particulier par Berlin. Enfin, les faiblesses du dispositif de sécurité français, c'est une faiblesse, disons, d'ordre technique. C'est vrai qu'il y avait eu un attentat qui avait été organisé quelques mois auparavant à Zagreb contre le roi qui avait échoué. Et donc, la partie yougoslave avait bien prévenu les autorités françaises que les mesures de sécurité devraient être maximales. L'erreur française a été notamment de refuser la venue d'une délégation de policiers yougoslaves en amont de la visite pour la préparer. Et ça a été également le fait que l'Ustasha et l'Organisation révolutionnaire intérieure macédonienne voulaient de toute façon l'organiser en France parce que la police française était moins habituée à les surveiller. En revanche, ils étaient beaucoup traqués beaucoup plus efficacement sur le territoire yougoslave qu'en France. Et ils ont très, très minutieusement préparé l'attentat, et en prenant soin notamment de venir assez peu de ne pas venir à Marseille. Il y a que l'assassin, je pense, qui est venu à Marseille. Et donc, cela nous a discrédités sur le plan sécuritaire. Et puis, notre ministre, Louis Barthou, a été tué. Et il a été tué d'une balle perdue française. Et naturellement, l'Allemagne nationale-socialiste était déjà devenue influente à Belgrade. Mais à partir du moment où le roi a été assassiné en raison de négligence française, la France a perdu pratiquement toute son influence en Yougoslavie. Ça a été progressif, mais tout de même relativement rapide. Les Français ne voulaient pas l'admettre, naturellement, mais c'était devenu évident. Et pour les obsèques d'Alexandre à Belgrade, la France a été représentée à la fois par le chef de l'État, Lebrun, et par le maréchal Pétain. Nous avions clairement quelque chose à nous faire pardonner, mais l'Allemagne a été à ce moment-là beaucoup plus habile que nous. Il faut aussi savoir que Berlin était déjà devenu très influent sur Alexandre avant sa mort. L'Allemagne nationale-socialiste avait très très bien flatté le régime yougoslave.
Lors de sa disparition, le roi est mort, vive le roi. Paul Ier, son fils, a 11 ans. Il se trouve à Londres, si je ne m'abuse. Il va donc hériter d'un royaume qui fait face à la fois à une montée des tensions, une montée des périls, qui fait face à une prépondérance des guerres informationnelles et de relations entre diverses puissances européennes. Finalement, le rêve d'Alexandre est-il mort dès 1934? Est-ce qu'il meurt en 28 avec l'assassinat de Radić? Ou est-ce qu'il aurait pu être sauvé et que ce sont les aléas de la Deuxième Guerre mondiale qui les verront muter ou est-ce que finalement la Yougoslavie de Tito est aussi d'une manière ou d'une autre l'héritière de ce règne d'Alexandre Ier?
Alors, il y a
Question très large, oui, pardon. Et en plus, il nous reste 2 minutes.
il y a plusieurs questions en une. Bon, disons que bon, j'aurais quand même plutôt tendance à dire que le royaume est mort en 28, en fait. Mais bon, ça, c'est peut-être une appréciation personnelle a posteriori. Son fils Pierre II, donc son fils Pierre II est à Londres où il venait d'être scolarisé. Donc il revient tout de suite à Belgrade, mais effectivement. Il a 11 ans, donc il y a une régence. À ce moment-là, il y a une régence de 34 jusqu'en 41. Il y a une régence, et c'est Paul. Donc Paul est en fait le cousin d'Alexandre. C'est lui qui sera co-régent, mais c'est lui qui exercera le pouvoir, mais à ce moment-là, si vous voulez, l'influence allemande est croissante. L'influence allemande et l'influence italienne. On dit que la Yougoslavie est comme une souris entre deux chats, les deux chats étant l'Italie fasciste et l'Allemagne nationale-socialiste. Donc le régime s'affaiblit, la France n'exerce plus beaucoup d'influence, et puis en 1941, la Yougoslavie est dépecée en fait. Et Pierre Ier fuit à Londres, voilà, et reste roi, mais en exil. Non
Nous
pas
arri
Pierre Ier, mais Pierre II, pardon.
Pierre II. Nous arrivons au terme de cette émission. Je rappelle le titre de votre ouvrage Alexandre Ier de Yougoslavie aux éditions Perrin. Nos excuses aux auditeurs pour les quelques incidents techniques, mais en tout cas, je vous invite fortement à lire cette biographie. Elle est pleine de richesses. Il y a plein d'autres aspects à étudier. Et je remercie la technique qui a eu fort à faire pendant cette émission. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau livre journal des débats.
Merci beaucoup.
venez d'entendre le Libre Journal des débats dirigé par Charles de Meyer. Émission préenregistrée le 10 avril 2026 et diffusée pour la première fois mercredi 15 avril 2026 de 21h30 à 23h et réalisée par Michael. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5€ par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9€ ou 6€ seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.